Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission consacrée aux explorateurs, thème à l'honneur sur France Culture pendant toute la semaine jusqu'au 31 décembre. Et comme on est dans le temps des écrivains, ce sont des explorateurs écrivains que nous avons convoqués. Attention, pas le genre à taillader la forêt vierge au coupe-coupe ou à arpenter la banquise en parka anti-blizzard. Beaucoup mieux que cela avec Pierre Bayard, François-Henri Désérable et Miguel Bonnefoy, ce sont des explorateurs de la littérature, des littéraronautes qui sont avec nous, ce qui ne les empêche pas de prendre quelques risques à l'occasion, risques psychiques, mais aussi physiques, on le verra. Bonjour Pierre Bayard.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 8, vous êtes psychanalyste aussi, toujours.
Et également, oui.
Voilà, vous êtes l'auteur de livres intellectuellement délicieux et délicieusement paradoxaux sur la littérature. C'est même le titre de la collection qui les abrite aux éditions de Minuit. Des livres qui nous ont appris, par exemple, à... comment parler des livres qu'on n'a pas lus, des livres qui nous ont montré qu'Agatha Christie s'était trompée de coupable dans son propre roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, comment Voltaire a plagié Conan Doyle 200 ans avant lui, ce que vous appelez le plagiat par anticipation, des livres encore qui prétendaient améliorer Proust en supprimant les passages à la recherche du temps perdu parce que c'est entendu Proust, c'est trop long, lisions-nous chez vous. Et vous revenez aujourd'hui avec l'énigme Tolstoïevski, toujours chez Minuit, où vous explorez la vie et l'œuvre d'un écrivain qui nous dit vaguement quelque chose, Léon Fiodor Tolstoïevski, mais que vous posez comme un écrivain existant, étudiable même. Cet écrivain est en même temps auteur d'Anna Karénine et de Crime et Châtiment, et vous nous proposez d'explorer son œuvre. Est-il, sauf votre respect, Pierre Bayard, ce Tolstoïevski, ce que les Grecs appelait, et ce que les biologistes d'ailleurs appellent toujours, une chimère, c'est-à-dire à la fois un monstre mythique dont la particularité est d'être constitué de plusieurs parties d'animaux distincts, ou un organisme, ça c'est les biologistes qui le disent ainsi, qui possède deux ou plusieurs génotypes distincts.
Alors Tolstoïevski est un géant de la littérature russe qui illustre parfaitement ce que j'appellerais la paresse critique. Parce que devant l'ampleur de l'œuvre, la complexité de la vie, eh bien un certain nombre de mes collègues ont choisi la solution de facilité et l'ont divisé en deux, attribuant une partie de l'œuvre à un premier auteur de fiction et une partie de l'œuvre à un autre auteur. Alors moi je réunis avec quelque chose qui rappelle l'exploration. Vous savez, j'ai fait un livre sur Shakespeare, j'ai fait un livre sur Proust, sur Agatha Christie. Quand vous travaillez sur ces auteurs, pensez à Shakespeare ou Proust, vous avez des milliers et des milliers de livres avant. Quand vous arrivez sur un auteur comme Tolstoïevski, vous êtes le premier. Je n'ai pas trouvé un seul livre, pour le moment, consacré à Léon Fiodor Tolstoïevski. Et ça donne ce sentiment que doivent vivre les explorateurs, un sentiment d'excitation, d'être le premier sur cette terre vierge, mais aussi un sentiment d'angoisse, parce que vous avez des responsabilités. Quand vous amorcez tout ce qui sera un travail critique pour les années et les siècles à venir sur Léon Fiodor Tolstoïevski.
Un peu comme si on explorait la Russe-Amérique, par exemple.
Voilà. Et il y a vraiment, moi qui ai sans cesse travaillé sur des auteurs où j'étais pas le premier, il y a quelque chose avec ce qu'on pourrait appeler un écrivain valise, il y a quelque chose de profondément excitant dans cette démarche à me confronter pour la première fois avec un géant.
Très bien. François-Henri Désérable, bonjour.
Bonjour.
Vous signez en cette rentrée un certain monsieur Picchielny, dont le titre fait immédiatement référence à un personnage de Romain Gary dans La promesse de l'aube, voisin d'enfance du jeune Gary qui lui avait demandé, enfin c'était pas encore Gary d'ailleurs, qui lui avait demandé de dire au grand de ce monde s'il devenait un jour célèbre, comme le prétendait sa mère, cette phrase toute simple mais qui avait tant d'importance à ses yeux. « Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire, au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno, habitait monsieur Picchielny. » Gary ne manqua pas, nous assurez-vous, à sa parole, et chaque fois qu'il put, c'est ce que vous écrivez, devant la reine Elisabeth ou Kennedy, il prononça la phrase promise. C'est ce que vous nous dites, François-Henri Désérable, au terme d'une relecture de l'œuvre de Gary, d'une relecture aussi de votre propre jeune vie, qui vous permet de redonner chair à Picchielny. Nouvelle preuve que la littérature, même riche en tombeaux, ne sera jamais un cimetière. Ce livre, François-Henri Désérable, est-ce que c'est une réexploration et même une réexploitation prolongée de l'œuvre de Romain Gary.
Oui, sans doute. Contrairement à Tolstoïevski, Gary, lui, était bien deux écrivains. Et d'ailleurs, le premier livre de Pierre Bayard, en 1990, s'appelait « Il était deux fois Romain Gary ». Il y a eu le pseudonyme Gary, qui veut dire « brûle » en russe, à l'impératif. Et puis, il s'est réinventé après avec « La mystification Émile Ajar ». Il a écrit 4 livres et ça n'est qu'après sa mort que l'on a découvert que Romain Gary et Émile Ajar étaient un seul et même écrivain. Est-ce que c'est une réexploration? Je pense que j'ai essayé dans ce livre de montrer combien, pour Romain Gary, le mensonge n'était en fait qu'une variation subjective de la vérité. Et en fouillant un peu dans sa vie, dans son œuvre, on découvre qu'il a toujours essayé de rehausser le réel à travers la fiction.
Miguel Bonnefoy, enfin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié, vous, Sucre Noir en cette rentrée. C'est chez Rivage. Piccadilly, c'est chez Gallimard, je ne l'ai pas précisé. Après, un autre livre, Le Voyage d'Octavio, pour lequel vous étiez venu il y a 2 ou 3 ans, c'est
Absolument.
Ça ? Absolument. Voilà. Sucre Noir nous invite à bord d'un trois-mâts bourré d'or, étrangement naufragé dans les branches d'un manguier. On est dans les Caraïbes. Le bateau chargé d'or n'est plus qu'un lointain souvenir, une légende, mais son trésor est toujours un objet de quête pour les habitants de ce coin de jungle que vous mettez en scène dans ce livre, en même temps qu'une sorte de Madame Bovary des tropiques qui consume ses rêves d'amour dans le meilleur rhum de la région, qu'elle-même, disent-ils, à profusion. Un Andalou débarque dans ce décor, puis une petite fille baptisée Eva Fuego, et qui, elle, va mettre le feu aux poudres de ce roman feu d'artifice où tout explose, les saveurs, les couleurs, les parfums, les désirs. Vous avez aussi exploré dans un autre livre, physiquement, cette fois, cet autre livre, c'est Jungle, c'est chez Paul Sen, le mythique Salto Angel, chute d'eau du Venezuela. Est-ce que je me trompe si j'ai l'impression, Miguel Bonnefoy, que davantage, au fond, bien sûr, il y a le Salto Angel, il y a cette escalade, vous nous en parlerez, mais que plus vous plaît finalement l'exploration d'une littérature latino-américaine, en l'occurrence, dont vous essayez de rendre la touffeur, la tropicalité dans vos propres phrases?
Tout à fait. Et j'aime beaucoup comme vous le dites, et c'est une forme d'exploration de la langue, peut-être à mi-chemin entre deux langues, l'espagnol et le français, une sorte de pont de papier qui se fait entre les deux, et le bonheur d'être avec deux explorateurs immenses, avec mon ami François-Henri Désérable, qui est l'explorateur de la mémoire, du souvenir, de l'hommage, et qui sait sortir des noms inconnus du tombeau pour les rendre illustres. Et Pierre Bayard, qui est également, lui, l'explorateur du double, de la multiplicité, de l'écriture comme un diamant avec différentes facettes qui brillent. Moi, c'est simplement l'idée de pouvoir faire une sorte d'exploration de la jungle des lettres, mais également celui de l'hymne à un pays, le Venezuela, de pouvoir montrer...
Qui est un peu votre pays. Hein,
qui est tout à fait. Voilà. Moi, je suis originaire du Venezuela. Ma mère est vénézuélienne. Et l'idée était de pouvoir venir en France en utilisant la grammaire française, les structures de phrases françaises, les astuces et les ruses, les labyrinthes du français, mais pouvoir tendre le regard du public français vers le Venezuela, qui est un pays qui a mauvaise presse, qui est peu connu et qui, cependant, a à l'intérieur de sa fange des pépites d'or qu'on ne soupçonne pas.
Merci à tous les trois de participer à cette émission donc consacrée aux explorateurs. Je voudrais qu'on commence tout de suite par cette idée d'exploration. Vous êtes des écrivains. En tant qu'écrivain, vous êtes aussi de grands lecteurs. Parfois, peut-être, vos livres viennent du fait que vous êtes de grands lecteurs. Est-ce que vous considérez la littérature, les livres, comme un terrain vraiment d'exploration, comme pourrait le faire un explorateur? Essayer d'aller voir justement des coins non répertoriés, Pierre Bayard.
C'était la position de Freud, hein, qui n'a cessé de dire « Ce qu'il faut lire pour essayer de nous comprendre nous-mêmes, ce sont les écrivains ». Et les modèles freudiens, les plus importants, à commencer par le complexe d'Oedipe, ce sont des modèles qu'ils puisent dans la littérature. Alors j'essaie de façon modeste de retrouver le même geste et d'essayer d'identifier dans les œuvres littéraires d'autres modèles qui nous permettent de nous explorer nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes.
François-Henri Désérable, un écrivain, je le disais, peut-être pas à cause du fait qu'il est lui-même un lecteur, un grand lecteur, un lecteur particulier aussi, est-il pour vous une forme d'explorateur ou c'est une vue de l'esprit ?
Je crois que les grands écrivains sont tous de grands lecteurs. Il y en a un seul, à ma connaissance, qui prétendait ne pas lire. C'était Albert Cohen, qui est l'auteur de cette œuvre magistrale, Belle du Seigneur. Mais je crois qu'il mentait effrontément. Je pense qu'Albert Cohen était lui-même un grand lecteur. Donc les grands écrivains sont tous de grands lecteurs. Ils sont de grands explorateurs. Et,
alors il y a mais lecteur-explorateur, vous mettez ça sur le même... Vous mettez, ce sont des synonymes pour vous,
oui, François, la lecture est une exploration. Plus on s'enfonce dans cette jungle... Plus on a envie d'aller loin et de continuer à explorer. Et moi, je suis pris de vertige, vraiment, lorsque je pense à tous ces livres qu'il me faudrait lire et que je n'ai pas entendu.
Allons un petit peu plus loin. Est-ce que, justement, un écrivain, en tant que lecteur, peut considérer les œuvres des autres, qui sont venus avant, comme des terres de conquête littéraire?
Ça, c'est une question à laquelle il m'est un peu difficile à répondre, mais je...
Sur Gary, par exemple. Dire, je vais investir l'œuvre de Gary et je vais la manier.
Oui, alors moi, j'ai essayé simplement de la prolonger. Et disons que Gary a donné naissance à ce monsieur Piekielny, qui sans doute est issu de son esprit, dont il prétendait qu'il était son voisin. Et moi, je l'ai en quelque sorte élevé. Je lui ai prêté un métier, je lui ai prêté un hobby, je lui ai prêté un semblant de vie sentimentale et sexuelle. Donc, j'ai essayer de donner un petit supplément d'existence à ce personnage littéraire dont parle Romain Gary dans La Promesse de l'Aube.
Donc pas de conquête, hein, on reste
voilà, humble. C'est une conquête très respectueuse, oui.
Voilà, Miguel Bonnefoy.
Oui, absolument, oui. Comme disait François Henri, tout écrivain est d'abord un lecteur. Moi, pour ma part, j'ai abattu le travail de plusieurs machines pour écrire juste un tout petit livre. J'ai épuisé les lectures sur le folklore de la piraterie, et les livres théoriques, académiques sur le rhum, les éditions du Trésor dans lesquelles il recense une sorte d'énorme monographie et un grand glossaire, toutes les différentes histoires de chasseurs de trésors et de chercheurs d'or qu'on retrouve dans l'histoire, que ce soit avec Benito Bonito, que ce soit avec la rançon d'Atahualpa. Et prendre tous ces éléments, en faire une sorte de travail de défrichage dans lequel on prend les champs lexicaux pour avoir des repères et pour avoir des codes, puisqu'il ne s'agit pas juste de faire un western, il faut connaître les codes du western. Il ne s'agit pas juste d'écrire un livre sur le Venezuela, il s'agit de connaître les codes du Venezuela. Même spectacle pour la jungle, lire énormément sur la jungle. Et alors, prendre tout ce travail, abattre une forêt pour finalement construire une boîte d'allumettes.
Voilà, c'est la phrase de Théophile Gautier à propos de Flaubert.
Exactement.
Il y a une autre phrase que moi je fais mienne et que j'aime beaucoup, qui est celle
François
de Borges.
Oui.
Borges qui disait « Certains se flattent des livres qu'ils ont écrits. Pour ma part, je suis fier de ceux que j'ai lus. »
C'est tout à fait ça.
Et moi, je crois que je pourrais très bien abandonner l'écriture au profit de la lecture. La lecture est nécessaire à ma vie, l'écriture beaucoup moins.
Pierre Bayard, dans « Comment parler des lieux où l'on n'a pas été », vous rappeliez la célèbre phrase de Sandra à qui Lazarev reprochait de n'avoir pas vraiment pris le Transsibérien. Et Sandra répondait « Qu'importe, puisque je vous l'ai fait prendre à tous ». La littérature est-elle le moyen d'explorer sans bouger, et mieux encore, de pouvoir explorer des contrées qui n'existent pas? Autre exemple tiré de ce livre de vous, Pierre Bayard, sur Marco Polo. Marco Polo n'est visiblement jamais allé en Chine puisqu'il raconte dans le livre des merveilles qu'on y trouve des licornes et que dans certaines populations chinoises, quand un visiteur arrive dans un village, les maris ordonnent à leurs femmes et à leurs filles de satisfaire tous ses désirs sexuels. Et pourtant, il est désormais posé que Marco Polo est bien allé en Chine puisqu'il l'a écrit.
Oui, c'est une réflexion sur la place de la fiction en littérature et même la place du mensonge qui est très importante, et en particulier qui est très importante chez Romain Gary, hein, qui est un auteur qui a toujours beaucoup compté pour moi. J'ai commencé par un livre sur Romain Gary et qui continue à être présent comme un compagnon de pensée et d'écriture. Et il y a, dans La Promesse de l'Aube, par exemple, toute une série de passages qui sont totalement inventés. Piekielny, on n'est pas complètement sûr encore. Mais d'autres scènes magnifiques, comme les fausses lettres que la mère aurait envoyées pendant toute la guerre, ce sont des fictions. Mais ce sont des fictions nécessaires à capter une forme de vérité littéraire. Et ce qui est très intéressant avec le livre de François-Henri Désérable, c'est qu'il procède de la même manière, en hommage à Gary. Quand vous lisez son livre, et même quand vous êtes comme moi, plus ou moins un spécialiste de Gary, en tout cas quelqu'un qui connaît très bien l'œuvre, il y a des moments où vous dites, mais attention, là, cette scène-là, elle est vraie ou elle est fausse? Et je crois qu'il ne s'agit pas seulement de s'amuser avec le lecteur, il s'agit de construire une certaine forme de fiction qui atteindra une vérité que seule la littérature peut atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui est constant chez Romain Gary et qu'on retrouve dans l'ouvrage sur Piekielny.
Quand vous dites que c'est une vérité que seule la littérature peut atteindre?
Alors peut-être d'autres arts aussi.
C'est une vérité qui serait quoi? En quoi serait-elle une vérité supérieure?
Je crois qu'il y a une forme de transposition et même de mensonge est souvent nécessaire. En tout cas, dans la représentation que nous avons, nous, en France, de ce qu'est la limite entre vérité et fiction, qui n'est pas la même aux États-Unis. Vous savez, il y avait eu cette affaire autour de Steinbeck où un journaliste avait reconstitué l'itinéraire qu'avait fait Steinbeck aux États-Unis. Il s'était rendu compte que Steinbeck avait quasiment tout inventé, les lieux où il était passé, les gens qu'il avait rencontrés, etc. Et les Américains étaient très choqués. Mm-hmm. Parce que si vous racontez une histoire aux États-Unis, eh bien, elle doit être vraie.
Et le cas avec James Frey, d'ailleurs, oui, récemment aussi.
Alors qu'en France, je crois, nous avons le sentiment qu'il y a non seulement un droit de l'écrivain à fictionner, mais même un devoir, s'il veut atteindre cette forme de vérité supérieure qui ne correspond pas nécessairement à la réalité des faits.
Il s'agit pas fictionner évidemment en prétendant dire le vrai.
Voilà.
On a le droit.
Voilà. Il ne s'agit évidemment pas de faire l'apologie des fake news. Hein. Bien au contraire, on est là dans un registre très particulier qui est celui de la littérature et de l'art. Mais je crois qu'il y a vraiment cette pensée du détour, bon, le mentir vrai, disait Aragon. En tout cas, en France, cette pensée du détour pour atteindre une forme de vérité artistique.
Miguel Bonnefoy.
Tout à fait. Ça me fait penser justement au conseil que donne William Faulkner aux jeunes auteurs qui lui disent « Maître, donnez-nous un conseil ». Il lui dit un seul, mais mentez, mentez avant tout, et peut-être alors vous atteindrez la vérité.
Il y a un théoricien extraordinaire de ça, dont je parle dans « Comment parler des lieux où on n'a pas été », c'est Chateaubriand, qui non seulement fictionne complètement des voyages, mais même quand il les fait vraiment, quand il va en Grèce, qu'on lui propose de s'approcher d'un temple, il dit « Ah non, non, surtout pas, parce que je veux avoir une vue en perspective. C'est-à-dire, si je me rapproche trop, je ne verrai pas ce temple comme je dois l'être, dans la profondeur de son histoire, dans les superpositions esthétiques, etc. »
Il y a un passage de Chateaubriand. Chateaubriand a entrepris un voyage aux États-Unis où il raconte qu'il va à Philadelphie et à un moment il tape à la porte de la maison du président et il nous dit qu'il rencontre George Washington. Alors on ne sait pas s'il l'a vraiment fait, mais ça serait un petit peu compliqué aujourd'hui d'aller de se présenter comme ça, d'aller taper à la porte de la Maison Blanche et de
pour aller voir Donald Trump.
Et c'est un passage extraordinaire parce qu'il termine en disant je n'étais pas grand chose, donc il est peu probable que Washington se souvienne de moi.
Ça, ah oui, voilà.
C'est le moins qu'on puisse.
Voilà. Oui, c'est une garantie, voilà, précaution. On continue avec vous, Pierre Bayard, mais d'abord on écoute votre choix musical. Vous avez choisi un extrait de la Sonata Kreutzer, Beethoven, interprété par Vadim Repin et Martha Argerich. La sonate à Kreutzer de Beethoven. C'est le choix de Pierre Bayard, auteur de L'énigme Tolstoïevski, c'est chez Minuit. Pourquoi ce choix musical, Pierre Bayard?
C'est une œuvre tout à fait étonnante, puisque
de Tolstoïevski.
À l'origine, c'est une sonate, et puis ensuite, c'est un texte complètement fou de Tolstoïevski, extrêmement.
Donc, pas de Tolstoï, hein, je précise bien.
Oui. Arrêtons avec cette fiction qui a assez duré. Hein. Et texte complètement fou. Hein. Mais le comportement du personnage principal, qui est un jaloux maladif, hein, Poznichev, est très bien analysé par Tolstoïevski en termes de personnalité multiple. On voit très bien comment il y a deux Poznichev, dont l'un qui finit par dominer l'autre et devenir un criminel. Et de nombreux textes de Tolstoïevski illustrent cette pluralité des personnes en nous. En particulier, tous ces textes dans lesquels quelqu'un se détruit lui-même, quelqu'un s'agresse lui-même.
Alors, je le disais en introduction, hein, vous êtes universitaire, vous enseignez à Paris 8, vous êtes psychanalyste aussi, vous êtes l'auteur d'essais remarqués et paradoxaux sur la littérature. Sauf que là, vous nous dites, c'est pas du tout ni un paradoxe, ni, voilà, Tolstoï ou Dostoïevski sont un même écrivain, donc Tolstoïevski. Donc, on s'est tous trompés, en fait, jusqu'alors.
L'intérêt de ce dispositif, c'est d'introduire une légère erreur dans l'ensemble du livre. Et Freud consulte la théorie de la sublimation autour de l'idée que Léonard de Vinci n'a pas de vie sexuelle. Très belle théorie qui va rester vraie, même quand on découvrira que Léonard de Vinci a une vie sexuelle extrêmement abondante. Je crois qu'en introduisant dans certains dispositifs théoriques une petite erreur, et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une petite erreur dans mon livre, vous pouvez construire des théories fictionnelles mais intéressantes grâce à cette petite erreur. C'est un peu le mécanisme de la paranoïa, dont quelqu'un disait que dans la paranoïa, tout est vrai sauf une chose, le point de départ. Et à partir de là, tout est vrai. Eh bien, il y a un point de départ dans mon livre qui est contestable.
On laissera les auditeurs découvrir justement ce point contestable. En tout cas, on vous prend pied de la lettre. Une seule personne, un seul écrivain, donc écrit à la fois Guerre et paix et Crime et châtiment. Et cet écrivain donc s'appelle Tolstoïevski. Pourquoi tenez-vous absolument à ce que le créateur d'Anna Karénine et des frères Karamazov soit une seule et même personne? Pourquoi est-ce que on s'est trompé jusqu'à vous et pourquoi vous tenez aujourd'hui à le marteler?
Je crois d'abord pour beaucoup de lecteurs, il y a une sorte de stéréotype de la littérature russe que le nom de Tolstoïevski permet d'aborder. C'est d'ailleurs une des erreurs, paraît-il, les plus classiques que rencontrent les libraires quand un client vient de demander un livre de Tolstoïevski. Donc je pars de cette fiction.
Donc certains lecteurs le savent, en fait, connaissent l'existence de Tolstoïevski.
Je crois que voilà. Ils pressentent, ils sentent en eux-mêmes qu'on leur a raconté des histoires.
Il y a eu un complot, finalement, pensez, dans les... pour faire de cet écrivain unique
Mais je crois qu'il y a surtout une grande paresse critique. Penser que ce géant de la critique, George Steiner, consacre un livre qui identifie fictivement les deux personnalités. Le livre s'appelle Tolstoï ou Dostoïevski. Donc il y a une grande paresse critique face à une œuvre qui est gigantesque. C'est des dizaines de milliers de pages, car Dostoïevski était un graphomane. Une période d'une dizaine d'années pendant lesquelles il publie tous ses chefs-d'œuvre, écrivant matin et soir. Et donc, le prendre comme une seule personne, c'est une manière fictive d'atteindre une certaine vérité, mais aussi de réfléchir sur ce qu'est la littérature russe pour nous.
Oui, et là, on redevient dans un savoir commun. Est-ce que vous pourriez nous dire, Pierre Bayard, au fil de quelle exploration vous avez-vous découvert ce qui était jusqu'alors une supercherie ou l'effet d'une paresse critique, à savoir que ces deux hommes étaient un?
Ce qui m'a frappé, c'est la communauté de certains thèmes qu'on retrouve de façon frappante dans l'ensemble de l'œuvre, y compris dans ces deux auteurs fictifs que l'on a inventés. Pensez par exemple au thème du polyamour, c'est-à-dire le fait que quelqu'un se retrouve passionnément épris de plusieurs personnes. Comment l'expliquer sinon par la théorie des personnalités multiples? Et regardez, le polyamour se retrouve dans tous les livres de Tolstoïevski. Natacha, dans Guerre et paix, tombe amoureuse du prince André. Quelques semaines plus tard, alors que le prince André est parti combattre les armées napoléoniennes, elle tombe amoureuse d'un libertin, Anatole Kouragine. Et tout à coup, elle réalise qu'elle est passionnément éprise de deux hommes. Et elle tombe dans l'angoisse, faute d'accepter cette évidence, qu'elle est peut-être plusieurs personnes, et que donc la coexistence de ces deux passions ne pose pas de problème. Vous avez même un personnage de Dostoïevski, dans une nouvelle magnifique qui s'appelle Le Diable, qui est partagé entre deux femmes, une paysanne et une femme de sa condition, qui n'arrive pas à choisir, et qui va se suicider, tellement il souffre de cette découverte du polyamour. Alors qu'aucune des deux femmes ne voit de problème à ce qu'il fréquente l'autre, donc il n'a aucun problème psychologique, il se l'invente, il a un problème d'emploi du temps. Il suffit qu'il organise son emploi du temps en conséquence. Mais la découverte du polyamour est quelque chose qui est toujours terrifiant chez Dostoïevski, parce que c'est vraiment la rencontre avec le fait que nous sommes plusieurs personnes à l'intérieur de l'illusion d'un corps unique.
Vous ouvrez ce livre, Pierre Bayard, par une citation de Borges, on en parlait, de la préface à l'invention de Morel. Les Russes et les disciples des Russes ont démontré jusqu'à la nausée que rien n'est impossible. Suicide par excès de bonheur, assassinat par charité, personne qui s'adore au point de se séparer pour toujours, traître par amour ou par humilité, cette liberté totale finit par rejoindre le désordre total. En quoi Tolstoïevski peut-il nous aider, maintenant qu'on sait que c'est la même personne, à mieux comprendre la littérature russe ?
À mieux comprendre, en tout cas, ce qui est remarquable dans la littérature russe, qui est, vers la fin du XIXe siècle, la recherche de nouveaux modèles. Et il n'y a pas qu'en littérature russe. Toute l'Europe, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, aussi bien les psychiatres que les créateurs, que les écrivains, est à la recherche de modèles pour penser l'altérité, l'inconscient, l'autre, les continents noirs. Pensez au double de Dostoïevski, mais pensez aussi à Stevenson, à Oscar Wilde, à Maupassant, le Horla. Et la littérature russe illustre très bien cette recherche de nouveaux modèles pour nous penser nous-mêmes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un modèle qui va l'emporter sur tous les autres. C'est la psychanalyse, en tout cas en France et en Europe. Et les autres modèles vont rester plus discrets. Le modèle, par exemple, des personnalités multiples, qui permet vraiment de comprendre de multiples situations de notre vie quotidienne, va partir aux États-Unis et là va avoir un immense succès, aussi bien chez les créateurs que chez les psychiatres, que chez les Américains.
Vous étudiez Tolstoïevski. Avez-vous pensé à étudier Gogolkin ou Pouchkermontov?
Écoutez, je pense que j'ouvre un champ. Je dis ça, excusez mon immodestie, hein. Mais les écrivains sont aussi des citoyens. Je crois que nous devons aussi penser à l'économie. On nous demande de faire des restrictions budgétaires, on demande de regrouper les universités, de regrouper les départements, de regrouper les postes d'enseignants. Moi, je regroupe les auteurs. Et je pense que non seulement il y a un souci d'économie, mais je pense que ça permet, comme je l'ai montré dans « Et si les œuvres changeaient d'auteur », de voir différemment les œuvres. Dans « Et si les œuvres changeaient d'auteur », j'étudiais par exemple « Autant en emporte le vent de Tolstoï » ou « Le cuirassé Potemkin d'Hitchcock ». Quand vous faites ce léger décalage, cette légère erreur, des pans entiers de l'œuvre qui ne vous auraient pas frappé, tout à coup, vous sautent au visage. Les scènes de suspense dans « Le cuirassé Potemkin » d'Hitchcock, que vous ne regardez pas si vous ne savez pas que l'œuvre est d'Hitchcock.
Je voudrais qu'on vous entende lire un petit extrait, parce que j'ai une question à vous poser sur une expression qui m'a titillé, Pierre Bayard.
Ainsi, Tolstoïevski constitue-t-il le cas unique d'un auteur multiple ayant mené lui-même une réflexion personnelle sur cette pluralité. À ce titre, il offre une véritable opportunité à partir du double exemple de sa vie et de son œuvre pour tenter, avec les seuls outils de la littérature, de jeter un peu de lumière sur les différentes personnalités qui vivent en nous. Je m'inspirerai ici de cette idée freudienne que la littérature est capable de nous faire mieux comprendre le psychisme et qu'il importe moins d'appliquer aux œuvres la psychanalyse ou une autre science constituée avec le risque de dégager des fantasmes toujours similaires que de faire l'inverse et d'écouter ce que ces œuvres peuvent nous apprendre sur nous-mêmes. Il s'agira en effet non pas de valider une théorie déjà existante et prête à fournir des réponses, mais de tenter de mieux nous comprendre à la lumière de l'œuvre de Tolstoïevski, en essayant d'imaginer quelle représentation du psychisme la lecture de ses romans pourrait permettre de construire à titre de fiction plausible.
Voilà, merci beaucoup Pierre Bayard. C'est un extrait de l'énigme Tolstoïevski, voilà, qui paraît chez Minuit. Qu'est-ce que c'est que ces fantasmes toujours similaires dont vous parlez? Et enfin, une fiction plausible.
Alors, fantasme toujours similaire, la force et la faiblesse de la psychanalyse, c'est qu'elle fonctionne toujours. Vous prenez la psychanalyse, vous pouvez analyser n'importe quelle œuvre littéraire, n'importe quelle œuvre artistique, n'importe quel comportement. C'est une force, mais on voit bien aussi que c'est une faiblesse. D'où cette tentative que je fais au fil de mes livres, de pratiquer ce que j'appelle la littérature appliquée à la psychanalyse, et donc d'essayer de trouver de nouveaux modèles chez les écrivains, comme Freud lui-même l'avait fait en son temps. Et je pense vraiment qu'il y a chez Tolstoïevski, à condition qu'on réunisse les deux parties de son œuvre, des propositions pour nous explorer nous-mêmes. Fiction plausible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On introduit une légère erreur, comme il y a de légères erreurs dans le livre de François-Henri Désérable, et ces légères erreurs permettent d'atteindre une forme de vérité que l'on n'atteindrait pas autrement.
Vous dédiez votre livre à Umberto Eco. Alors c'est quel Umberto Eco? Est-ce que c'est l'explorateur des bibliothèques? Ou plus précisément celui qui, dans Lector in Fabula, dit que tout texte écrit, évidemment, s'adresse à un destinataire, qu'il nomme son lecteur, et que celui-ci, au fond, loin d'être passif, doit tirer du texte ce que ce texte ne dit pas, mais présuppose ou promet, ce qu'il appelait la coopération interprétative du lecteur.
Alors, c'est à la fois celui qui réfléchit sur l'interprétation, par exemple sur la notion d'œuvre ouverte, qui est véritablement au cœur de ce que je fais, mais c'est aussi l'auteur de ce livre extraordinaire, Le Don de la Rose, où il a réussi cette performance, que moi j'essaye de faire à un niveau plus modeste, de faire à la fois de la théorie et de la fiction. Parce que on connaît bien le côté fictionnel du Don de la Rose.
Lui le présentant comme un roman.
Hein, oui, mais c'est aussi un livre de réflexion sur les hérésies, les dogmes religieux, etc. Les deux intimement mêlés, et en ce sens, c'est pour moi une œuvre exceptionnelle d'un homme exceptionnel.
Donc dans cette exploration finalement des textes, vous attendez aussi de la même façon que le lecteur soit l'aide de camp de l'auteur dans cette exploration du continent, par exemple Tolstoïevski.
J'attends du lecteur qu'il accepte d'être déstabilisé, puisque mes livres font un certain usage de l'humour, du paradoxe. Donc il y a certains énoncés qu'il faut prendre à la lettre, il y en a d'autres qui ne font pas prendre à la lettre. Les livres sont tenus par un narrateur, comme dans un texte de fiction. Donc c'est un peu déstabilisant pour le lecteur. Et j'attends de lui qu'il accepte d'être déstabilisé. Qu'est-ce qu'un livre qui ne déstabilise pas d'ailleurs ? Et donc qu'il soit prêt à en passer par des dispositifs de science-fiction, d'humour, de paradoxe, en sachant que ça peut le conduire à percevoir des dimensions de la littérature qui ne seraient pas nécessairement perceptibles autrement.
Vous êtes convaincu, Miguel Bonnefoy et François-Henri Désérat, par ce Tolstoïevski ? Voilà, on s'était trompé, en fait, c'était le même.
Absolument, était si bien que dans cette sublime analogie entre les deux auteurs, et il y a peut-être aussi une analogie à une littérature qui pourrait créer un monde meilleur, et une analogie avec les frontières qui justement s'effacent, et que le bois des barriques est poreux entre deux écritures, mais également entre deux continents, entre deux nations, et peut-être ça peut ouvrir, puisque vous ouvrez une voie à la machette, comme un explorateur, vous ouvrez une voie pour un monde meilleur, un siècle meilleur, plus solidaire, et plein d'entraide.
Le continent des écrivains valises est immense.
Oui. Les écrivains valises.
Mais je crois que les bons livres sont ceux qui vous donnent l'envie d'en découvrir d'autres ou d'en redécouvrir et de lire beaucoup. Et j'ai envie de relire l'œuvre de Tolstoïevski à l'aune de l'exégèse qu'a pu en faire Pierre Bayard.
À la machette. Donc on continue avec vous, François-Henri Désérat. Pas de Tolstoïevski chez vous, mais Gary, Kassef, Ajar. Une autre chimère, peut-être, à trois têtes. Peut-être le même, peut-être. Que vous réexplorez. On commence tout de suite. En quoi était-il intéressant de réexplorer Gary alors qu'on pourrait penser que tout a été exploré chez lui jusqu'à son mariage et jusqu'à la couleur de la robe de chambre qu'il avait choisie le jour de son suicide?
Oui, elle était rouge, paraît-il, le 2 décembre 1980. Au départ, je n'avais pas du tout prévu de parler de Romain Gary. Je voulais vraiment partir à la recherche de ce monsieur Piekielny, mener une enquête un peu à la manière de Patrick Modiano, qui l'a fait
de Dora Bruder.
Avec Dora Bruder, effectivement. J'ai fouillé un peu dans les archives à Vilnius. J'ai cherché dans le registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande Paulanka, entre 1921 et 1925. J'ai trouvé le nom de Roman Katsev, qui est le nom de naissance de Romain Gary. J'ai trouvé celui de sa mère, Mina Katsev. Mais je n'ai pas trouvé le nom de monsieur Piekielny. Moi-même, à l'époque, j'habitais au 56 rue de la Fontaine. Et vous savez, quand vous êtes écrivain, c'est assez difficile de trouver un appartement à Paris, puisque les propriétaires ne vous font pas confiance. Donc je sous-louais mon appart à l'ami d'un ami, et mon nom ne se trouvait sur aucun document. Et je me suis dit que s'il prenait à quelqu'un l'envie de chercher qui vivait au 56 rue de la Fontaine-au-Roi dans plusieurs années, eh bien on n'y trouverait aucune trace d'un quelconque désérable, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas existé. Ma présence ici même le prouve. Donc je n'ai pas tout de suite baissé les bras, mais à mesure que je cherchais, à mesure que j'explorais la vie de ce Piekielny, eh bien je trouvais de moins en moins de choses, et j'ai fini par fictionnaliser, par imaginer cette vie et par raconter les scènes lors desquelles Romain Gary a pu prononcer le nom de ce Piekielny. Et donc si je raconte la vie de Romain Gary, dont on connaît presque tout aujourd'hui, c'est toujours en gardant Piekielny en fil rouge. Donc je raconte la rencontre de Gary avec le général de Gaulle, ou celle de Gary avec Kennedy à la Maison Blanche en 1963, ou le fameux épisode d'Apostrophe lors duquel Romain Gary est invité par Bernard Pivot en 1980 et arrive un invité surprise, Patrick Modiano. Et alors, si on va chercher cet épisode sur le site de l'INA, on peut voir que pendant le générique, sur la musique de Rachmaninoff, Romain Gary, si on lit sur ses lèvres, on peut lire « Merde, j'ai oublié de dire qu'au numéro 16 de la rue Grande Paulanka habitait un certain monsieur Piekielny ».
Je vous demandais ça, François-Henri Désérat, parce que vous, dans Évariste, qui était l'un de vos romans précédents, vous aviez exploré une autre vie humaine, hein, celle d'Évariste Galois, le Rimbaud des mathématiques, comme on le résume parfois. Au fond, vous disiez « Je n'ai pas quitté Piekielny, c'est lui qui m'intéresse », mais Piekielny, à chaque fois, vous ramène à Romain Gary. Vous n'avez pas envie d'arpenter de véritable une terra incognita?
Non, mais moi, je n'ai pas l'imagination foisonnante de Miguel Bonnefoy, et je serais bien incapable, je crois, de créer une histoire ex nihilo, comme il a pu le faire dans ses deux romans.
Ex jonglo,
voilà. Mon ami, non seulement tu peux le faire, mais tu le feras.
Mais non, je ne crois pas. Non, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que mon imaginaire puisse se déployer, mais à partir du réel. Et c'est ce que j'ai fait avec Évariste Galois. Des pans entiers de sa vie nous sont inconnus, et j'ai voulu essayer de combler les trous dans sa biographie. Et je crois que je serais bien incapable de partir de rien, et je n'ai même jamais inventé un nom de personnage.
On écoute votre choix musical, François-Henri Désérable. C'est un chant russe d'Elena Frolova, adapté et tiré d'un poème de Marina Tsvetaeva.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio.
Кем полосы не котовая Нынче выженится чернокосынка моя, чернокнижница. Дни полночные твои, век твой таборный, все работнички твои разом забраны. Где сподручники твои, те сподвижники? Белорученька моя, чернокнижница, не загладить тех могил слезой славою. Один заживо ходил, как удавленный.
Франсуа-Анри Дезерable, c'est votre choix musical, un chant russe d'Elena Frolova, tiré d'un poème de Marina Tsvetaeva. Pourquoi ce choix? C'est en hommage à Tolstoïevski.
Oui, alors, mais c'est toute la Russie éternelle qui est convoquée ici dans ses paroles. C'est Gogol, c'est Pushkin, c'est Tolstoïevski. Et puis, il y a une puissante mélancolie qui se dégage de ce chant. C'est la Tosca. Vous savez, la Tosca, c'est ce spleen slave, donc un spleen en plus fort qui peut-être a emporté Romain Gary. Et moi, je l'ai écouté en boucle, ce chant, lorsque je rédigeais un certain monsieur Piekielny.
Alors, un certain monsieur Piekielny fait référence, donc c'est votre roman chez Gallimard, paru en cette rentrée, fait référence à ce personnage, ce voisin d'enfance du jeune Roman Katsev, hein, à l'époque, il ne s'appelle pas encore Gary, qui lui avait demandé à cet enfant de dire au grand de ce monde, s'il devenait un jour célèbre comme le voulait sa mère, une seule phrase, mais qui avait énormément d'importance à ses yeux. Cette phrase, c'était: quand tu rencontreras des grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire au numéro 16 de la rue Grande Paulanka à Vilno, habitait Monsieur Piekielny. Et Gary, nous dites-vous, ne manqua pas à sa parole, et chaque fois qu'il put, devant la reine Elisabeth, devant Kennedy, il prononça la phrase promise. Et je voudrais savoir, dans cette démarche dans laquelle vous êtes lancé, François-Henri Dézérable, est-ce que, quand vous n'avez pas trouvé le nom de Piekielny que vous cherchiez, à la fois dans le registre des habitants de cette rue, dans les archives des camps de concentration aussi que vous avez fouillé, est-ce que vous n'avez pas été pris du doute de l'explorateur qui ne trouve pas justement derrière la jungle la cité fabuleuse promise par les fictions qu'il avait pu entendre, les rumeurs, mais qui ne trouve que le désert? Est-ce que dans ce cas-là vous n'en avez pas voulu à Romain Gary?
Si, beaucoup, je lui en ai voulu, et j'ai chez moi, peut-être mon seul bien, une lettre de Romain Gary, à côté de laquelle se trouve une photo, qui est un tirage argentique, dont je suis le seul à la posséder, et je le regardais, et je lui parlais à Romain Gary, et je lui disais, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu m'emmènes dans ce truc? Tu as menti toute ta vie, tu as passé ta vie à mentir, est-ce que ce Piekielny n'est qu'un personnage de fiction? Est-ce que tu l'as inventé? Et Gary, parfois, me répondait, me disait, mais continue, tu verras, tu finiras par trouver quelque chose. Et c'est en cherchant les Indes qu'on finit par découvrir l'Amérique. Donc j'ai fini par découvrir l'Amérique peut-être en explorant l'œuvre d'un autre écrivain qui a beaucoup influencé Romain Gary, et qui est Gogol. Et peut-être qu'on pourrait considérer que Romain Nicolas et Garigol est un seul et même écrivain.
C'est un beau sujet, Pierre Bayard. Garigol.
Je vais lancer immédiatement des thésards dessus.
Voilà. Une armée de thésards. Vous ne vous privez pas d'inventaire, hein, en cela vous suivez les conseils de cette photo de Gary qui vous parle, François-Henri Dézérable. On disait tout à l'heure, Marco Polo, dans son livre des merveilles, dit qu'en Chine, il y a des licornes, pourquoi pas? S'il l'a écrit, c'est qu'elles étaient là. Vous inventez, vous, une émission de télévision avec Pivot et Gary, vous faites intervenir Modiano. L'exploration de l'œuvre d'un écrivain comme Gary implique, au fond, la même... presque discipline de maître à élève, d'inventer, puisque le maître le fait, l'élève doit inventer aussi pour se mettre au diapason.
Oui, se mettre au diapason. Je crois que le meilleur moyen de rendre hommage à Gary et de rendre hommage à sa prodigieuse inventivité, c'était de faire la même chose. Et cette fameuse émission, l'apostrophe dont vous parlez, certains lecteurs, ayant lu le livre, prétendent l'avoir vu. Certains m'ont dit très sérieusement, mais oui, je me rappelle très bien de cette émission. Et moi, c'est ça qui me fascine dans la littérature, c'est que la littérature puisse avoir un effet de réel. Moi-même, lorsque je me suis retrouvé au château d'If, eh bien, quelqu'un a eu la bonne idée de creuser une galerie vie entre deux cellules, de sorte que j'avais vraiment l'impression que c'était les cellules d'Edmond Dantès et de l'abbé Faria, et j'étais presque tremblant d'émotion à l'idée qu'Edmond Dantès, futur comte de Monte-Cristo, issu de l'imagination d'Alexandre Dumas, avait pu passer une dizaine d'années de sa vie dans cette cellule.
D'ailleurs, Umberto Eco, qui nous avait fait le bonheur de venir dans cette émission, nous avait dit qu'il avait beaucoup plus pleuré à la mort d'Anna Karénine que quand sa vieille tante était morte.
Oui, il me semble également que l'écrivain Julio Cortázar disait parfois je me sens bien dans des moments avec des amis, dans des soirées, dans un cocktail, et puis tout à coup je me souviens de la mort de Julien Sorel, et alors je deviens triste.
Et Oscar Wilde disait que la mort de Lucien de Rubempré avait été le plus grand chagrin de sa vie lorsqu'il a lu Splendeur et misère des courtisanes. Bon, pourtant il a connu quelques chagrins, Oscar Wilde.
Oui, je voudrais juste ajouter que on parle beaucoup du côté ludique de Piccinni et du livre de François-Henri des Érables, mais Piccinni c'est aussi le symbole de l'extermination des Juifs. C'est un très grand livre, La promesse de l'aube, sur la Shoah.
Exactement.
Et ce personnage qui a disparu, dont on ne retrouve pas les traces, c'est aussi le symbole de tous ces Juifs et de tout ce Vilnius qui a disparu. François-Henri des Érables montre bien comment...
Une centaine de synagogues, 106, voilà. Je crois, il en reste une.
Il y a une comparaison qui est très intéressante dans son livre. Il montre comment, quand on va à Venise aujourd'hui, finalement, on retrouve le Venise de Canaletto. Mais pas du tout quand on va à Vilnius, parce que tout ce monde de ce qui était la Jérusalem du Nord a complètement disparu.
Oui, cette Jérusalem de Lituanie a été complètement engloutie. Alors d'abord par l'occupation nazie. Il y avait 60 000 juifs à Vilnius avant 1940. Aujourd'hui, la communauté est réduite à peu près 1000 juifs. Il y avait 106 synagogues et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Donc occupation nazie, puis occupation soviétique entre 45 et 91. Et je crois que si une personne ayant vécu à Vilnius dans les années 30 y revenait aujourd'hui, eh bien, il serait bien incapable de reconnaître cette Vilnius juive.
Et l'écrivain explorateur est aussi celui justement qui fouille, met au jour finalement, au jour contemporain, les vestiges du passé, mais à l'aide de mots simplement.
Oui, l'exploration est aussi une exploration temporelle, et moi je recommande de regarder le monde à travers parfois un filtre sépia. Et lorsque je me promenais dans Vilnius, je pouvais essayer de retrouver les traces de ce passé juif disparu. Il y a certains immeubles où la peinture commence à s'écailler et réapparaissent les lettres en yiddish qui étaient celles des enseignes de magasins juifs. Et à partir de ces quelques lettres en yiddish, eh bien on peut essayer de reconstituer mentalement toute cette ville, un peu comme lorsqu'on se promène à Pompéi et que l'on voit une colonne amputée des deux tiers et qu'on essaye de recomposer en esprit tout le temple.
François-Henri des Érables, j'aimerais qu'on vous entende lire un extrait d'un certain monsieur Piccinni.
À nous deux, Romain. Menons l'enquête. Faisons le point. Voyons de quel bois tu te chauffes. Commençons par ta naissance, si tu veux bien. À Moscou, dis-tu. Ou dans un train, c'est selon. Vraiment ? Oui, vraiment. Et la fiche d'état civil, que dit-elle ? Que tu es né le 8 mai 1914 à Vilno, qui s'appelait alors Vilna, de Mina Katsev et Darieleb Katsev, dit Leiba. Premier mensonge qui d'emblée en révèle un deuxième, mon petit Roman, mon grand Romain. Ton père n'est pas Ivan Mojoukine, la star du cinéma muet, comme tout au long de ta vie, maintes et maintes fois, tu as pu le prétendre. Comme avec aplomb, tu le prétendais encore un soir, face à Roger Grenier, visionnant avec toi le père Serge, un des films de ce père putatif, sublime et rêvé. Tu ne trouves pas, dis, tu ne trouves pas qu'il y a une ressemblance? Vaguement, peut-être, de loin, avec un peu d'imagination. Vous aviez la même gueule de Moujik, les traits rudes et cosaques, orientaux, et les mêmes yeux surtout. Ces yeux qu'à Vilno tu levais vers le ciel, c'est-à-dire vers les yeux bleus de ta mère, aussi verts que les tiens étaient bleus. De cette vague ressemblance, de ce cousinage lointain dans l'iris, dans les pommettes et le front, tu t'es inventé une ascendance éclatante, glorieuse, plus glorieuse en tout cas que la vraie, celle d'un petit fourreur juif, pas assez bien pour la légende, pas assez glamour, alors va pour Mojoukine, la star de ciné.
Merci François-Henri des Érables. Dernière question, je sais qu'il y a quelque chose qui compte beaucoup pour vous. C'est un mot qui nous vient du royaume d'Emmanuel Carrère. C'est au moment où il parle de l'apôtre Luc, qui évoque Marie de Magdalena. Et Luc, nous dit Emmanuel Carrère, quand il parle d'elle, ne fait que recopier ce que Marc a écrit à son sujet. Il n'en dit pas un mot de plus, rien qui vienne de son Sondergut sont bien propres, comme disent les exégètes allemands, pour qualifier ce qui se trouve chez lui et chez lui seul. Je sais que cette notion de Sondergut, qui serait le bien propre de quelqu'un et le bien propre d'un écrivain, c'est une idée qui vous intéresse. Avez-vous, au fil des livres que vous avez écrits, maintenant trouvé, exploré, approché de votre Sondergut, François-Henri Désérable?
Mais Carrère raconte que lui a trouvé son Sondergut à partir de L'Adversaire. Qui est ce roman absolument formidable, quand Emmanuel Carrère, plutôt que de dire Jean-Claude Roman, ce médecin de l'OMS, pense que, il dit « Moi, Emmanuel Carrère, je pense que Jean-Claude Roman pense que ». Et à partir de là, Carrère n'a fait plus qu'écrire des récits, qui sont presque tous des chefs-d'œuvre. Et moi, je crois que nous sommes, surtout Miguel et moi, de jeunes écrivains, nous n'avons écrit que peu de livres, dans une sorte de recherche perpétuelle de notre Sondergut. Et je crois que tout écrit écrivain devrait aspirer à ce que le lecteur, en ouvrant son livre au hasard, puisse lire un paragraphe et se dire « Ah, ça c'est du Proust, du Beckett, du Bayard, du Bonnefoy ». Et moi, c'est vers ce but que je tends et je ne sais pas si j'ai réussi à le trouver, mais en tout cas, j'y aspire.
Miguel Bonnefoy, vous l'avez trouvé, vous, ce Sondergut qui impliquerait que toute écriture, aussi romanesque, est une façon de s'explorer aussi soi-même, on est soi-même un territoire?
Ça me fait énormément penser à cette idée que ce n'est jamais un livre de plus qu'on écrit, c'est toujours un livre de moins dans le grand chemin jusqu'à arriver au livre ultime. Peut-être qu'on n'écrit jamais parce qu'on meurt avant, mais dans lequel on est sans cesse dans une sorte d'exploration de soi-même. Et donc, en effet, on est presque en train d'avancer à l'aveugle, à tâtons, et en train de se dire, eh bien, le prochain, c'est sûr, ce sera celui-ci. Et peut-être justement, eh bien, dans ce jeu, tantôt de fiction, tantôt de réalité, qu'on essaye de jongler avec, eh bien, je suis vraiment heureux d'être à la table et d'écouter François-Henri qui parle si bien de son livre et qui me fait penser à ces joueurs d'échecs habiles parce qu'ils savent prendre des grosses pièces par des petits pions et il sait comment justement utiliser une phrase simple pour dire une grande idée.
Alors, Miguel Bonnefoy, vous publiez, vous avez publié aussi en cette rentrée Sucre Noir chez Rivage. C'est un roman qui s'inscrit dans la lignée des grands récits. On croit au départ que ça s'inscrit dans les grands récits relatant les aventures des pirates et les efforts de tous ceux qui, après ces pirates, ont essayé de trouver leur trésor derrière eux. Ce livre s'ouvre avec l'évocation de la légende du capitaine Henry Morgan, donc pirate et corsaire anglais, qui avait œuvré au nom de la couronne anglaise, aussi son propre compte, dans les Caraïbes, contre la flotte espagnole. On nous parle d'un trésor, le bateau est naufragé dans un arbre, image absolument formidable du début du livre. Et puis très vite, en fait, on quitte Henry Morgan et on va s'intéresser à ceux qui cherchent le trésor d'Henry Morgan, notamment une sorte de Bovary des tropiques qui boit beaucoup de rhum, un rhum excellent qu'elle distille elle-même, un Andalou qui débarque dans ce décor, puis une petite fille que vous appelez Eva Fuego, qui trouvera le trésor, je n'en dis pas plus. Cette idée de trésor à chercher, de terre à explorer pour le trouver, elle est permanente en fait dans ce livre. Les figures d'explorateurs se succèdent, on parle même d'une hétéroclite compagnie des chercheurs de trésors à l'équipement très moderne. Est-ce que ce motif du trésor chez vous, Miguel Bonnefoy, est la preuve que pour vous la littérature se creuse, doit se fouiller en profondeur si on veut trouver quelques rubis ou ce Sondergut si précieux pour François-Henri Désérable et Emmanuel Carrère?
S'il y a une exploration au niveau du trésor, et un trésor métaphorique, anecdotique, comme ça un peu parabolique, c'est sans doute un trésor par rapport à la langue. C'est une exploration par rapport à la langue. Et je dois avouer que, en écrivant le livre, en faisant des recherches, en lisant énormément tantôt de la littérature latino-américaine, tantôt de la littérature européenne, eh bien aussitôt je tombais sur certains mots qui appelaient certains concepts,
par exemple,
qui donnaient des idéologies. Je pense par exemple à Morichal. Dans la jungle vénézuélienne, le Morichal, c'est un petit bosquet où se trouvent des arbres qui sont endémiques et qu'on appelle en français les palmiers bâches. Donc le Morichal est typique parce qu'en plus les palmiers sont noyés. Tout le monde sait, en marchant dans la jungle ou en marchant dans la savane, qu'en voyant au loin un Morichal, il va trouver de l'eau, donc pouvoir remplir sa gourde.
Et dans l'écriture, quand vous tombez sur Morichal...
Quand je tombe sur Morichal, je me retrouve dans la situation suivante. Tu écris Morichal, tu te rends compte qu'en espagnol, tu as un seul mot et tu as tout le concept derrière. Cependant, en français, pour dire Morichal, tu dois utiliser quatre mots. Tu utilises bosquier, de palmier, bâche. Donc, bien entendu, tu conviendras avec moi que c'est beaucoup moins impressionnant, c'est moins d'épaisseur, moins de relief. Et alors, qu'est-ce qui se passe? passe. Soit tu décides de mettre Morichal et tu fais un petit astérix et en bas tu donnes l'explication et peut-être tu coupes la lecture, soit au contraire, puisque tu es en train d'écrire en français, tu fais une périphrase, tu fais une incise. Tu te permets alors d'y intégrer des adjectifs, des adverbes, des dorures, des ornements. Et alors aussitôt, tu es en train de fouiller la langue. Tu es en train de passer par des contours et des labyrinthes de la langue que tu n'aurais pas emprunté, que tu n'avais pas soupçonné si tu l'avais écrit directement en espagnol. Donc je pense que s'il y a vraiment une exploration, c'est essentiellement une exploration dans les mots qui sont enfouis dans les dictionnaires, pleins de poussière. Dans une langue comme le français qui a presque 300 000 mots, mais dont un professeur émérite en connaît 6000. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres?
Alors, on écoute cette langue qui est la vôtre, pleine d'ornements, et j'ai choisi justement un passage du début du livre où on est en pleine jungle.
L'équipage décida d'envoyer un canot à terre afin d'explorer les alentours. Le second se fit descendre dans un fauteuil fixé à l'extrémité d'un palan. En glissant, il aperçut le ventre du navire rongé au flanc par des tentacules de mousse. 50 mètres plus bas, un grand lagon, couvert de fange, sombre comme un marécage, s'étendait à des centaines de lieues vers la forêt. La terre était boueuse. Il n'y avait que des arbres aquatiques dont les racines étaient noyées. Au-dessus de la mangrove, on voyait, flottant comme des radeaux, des troncs entremêlés de lianes et de branchages, des canaux sinueux qui coulaient sous les arceaux, des cadavres d'hirondelles dans la boue. Rien ne ressemblait à l'océan. À cet instant, le second comprit qu'il s'était égaré au milieu d'un territoire inconnu où, pour les empêcher de rejoindre la mer, tous les pièges de la nature semblaient se dresser devant eux. Il remonta et dit « Il faut prévenir le capitaine ».
Merci Miguel Bonnefoy, c'est un extrait de Sucre Noir. Plus je vous lis, plus j'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est de trouver la phrase qui va décrire le mieux les enchevêtrements de branches, d'espèces endémiques, végétales, les tiges, les feuilles qui font la végétation tropicale, comme si à un enchevêtrement, l'explorateur écrivain que vous êtes de la langue devait répondre par un autre enchevêtrement.
Cette idée sublime, il me semble que c'est Victor Hugo qui en parlait, que finalement la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je pense en effet que s'il y a un travail par rapport à une description de la jungle ou le portrait d'un personnage ou pouvoir accorder les métaphores dans un texte, on ne peut pas tout à coup dire n'importe quoi et utiliser des phrases courtes pour parler d'une végétation qui est gigantesque. Si, par exemple, on est en train de parler des tropiques, des Caraïbes, et un personnage dans lequel les sentiments s'effacent à l'intérieur de son cœur, ils ne peuvent pas s'effacer comme du givre au soleil. Parce qu'il n'y a pas de givre dans les Caraïbes. Il faut savoir accorder ces métaphores et il faut savoir alors faire des croisements entre ton écriture et le paysage que tu décris.
Là, on parle de jungle métaphorique, de jungle, d'une jungle de mots dans Sucre Noir, mais vous avez vous avez accepté, Miguel Bonnefoy, c'était en 2014, de devenir un véritable écrivain explorateur, physiquement, en rejoignant l'état de Bolivar pour une excursion d'un type un petit peu particulier, gravir la montagne de l'Ayantepuy, donc on est au Venezuela, et redescendre en rappel. Une cascade, et pas n'importe quelle cascade, puisque c'est le Salto Angel, qui est la cascade mythique du Venezuela, en compagnie d'une petite dizaine d'hommes. Vous avez escaladé des crêtes, ouvert des chemins à la machette, bâti des campements, écouté le bruit des torrents, et puis avec votre carnet de notes. Pourquoi avoir voulu aussi, finalement, ne pas vous contenter des jungles de mots et faire ce petit exploit?
J'avais énormément lu avant sur les jungles, c'est-à-dire j'avais peut-être passé 3 mois à la BNF dans lequel j'avais fait un travail gigantesque pour essayer de retrouver tous les mots qui ont à voir avec la jungle, tous les textes qui ont à voir avec la jungle, et j'avais commencé à écrire le texte avant d'y arriver, convaincu que je pourrais peut-être, comme ça, dans des premiers coups d'épée dans l'eau, donner déjà des images et me dire après, tout simplement, je broderai autour. Je dois t'avouer que lorsque j'ai posé le premier pied sur la jungle, je me suis rendu compte que tout mon travail avait été vain et que toutes les bibliothèques du monde ne peuvent rien faire devant l'architecture d'une fleur. En plus, on était, je crois, presque les premiers à être parti là-bas. Il n'y a pas plus de 100 personnes qui ont fait ce voyage parce que c'est pas du tout un
en
chemin
haut,
qui est touristique.
En bas, il y a beaucoup de gens.
Ouais. En bas, il y a beaucoup de gens dans les campements de Santa Marta et de Camarata. Il y a beaucoup
et
de gens.
Et Isla Raton.
Et de Isla Raton, tout voilà. à fait. Oui, Isla Raton, c'est presque une sorte de centre commercial
Exactement.
Maintenant de touristes.
Ouais.
Cependant, en montant vraiment dans la jungle, dans le Tepuy, c'est-à-dire là où il y a le sommet, où il y a les crevasses et où on trouve vraiment eh bien, tous les sillons.
Le monde perdu, d'ailleurs, on a un grand, grand écrivain.
Absolument. On trouve le monde perdu, on trouve au cœur des ténèbres également. On retrouve tout cet imaginaire et les textes qu'ont pu écrire Charles Breuer Carías également, dans lequel tu as quelques éléments sur la végétation endémique. Cependant, peu de choses. Peu de choses, ce qui veut dire que tu peux difficilement t'épauler, tu peux difficilement suivre, joindre ton écriture à l'écriture d'un autre pour pouvoir justement être dans son ombre. Quelque part, j'ai été heureux de ne pas avoir à me poser sur un autre livre, de être sans cesse dans une forme de mimétisme, d'imitation, de créer comme ça des ponts, des passerelles, des échos avec un autre écrivain et de réellement être en train de marcher à l'aveugle.
Dans Sucre Noir, quand vous décrivez la jungle, il y a assez peu de mots endémiques. Alors que dans Jungle, vous n'utilisez pas les périphrases dont vous nous parliez, mais, je vais vous citer, hein, il se constituait d'une dizaine de churruatas, des cabanes circulaires de bahareque, aux toits coniques de palmes et au sol de béton lissé, soutenus par des damiers de bois et des murets de ciment. Il était installé sur un morichal, entre la savane jaune d'un côté et une forêt qui, de l'autre, montait comme une étoffe, de grands nuages nous cachaient la vue du Tepuy. Là, vous ne prenez plus la peine d'expliquer. Là, il fallait utiliser les mots de l'explorateur, les mots locaux, des locaux.
Tout à fait. Ça a été un choix, celui de respecter non seulement la langue Pemong, mais respecter également l'imaginaire qui était autour. Et comment pouvoir parler d'une churruata? Alors, en effet, on peut prendre un paragraphe entier pour parler d'une churruata. Cependant, à l'intérieur du ventre phonétique de churruata, on a déjà un imaginaire, on a déjà un départ, on a déjà peut-être tout ce qu'ont imaginé les chroniqueurs des Indes quand ils sont partis à la découverte d'un nouveau monde. Et on trouve déjà alors les sirènes, on trouve déjà El Dorado, on trouve déjà la fontaine de Jouvence et ces hommes qui sont partis à la conquête des licornes et des animaux mythologiques.
Merci à tous les trois. J'avais une dernière petite question. Si je vous dis que, selon Littré, explorer vient de la même racine en sanskrit que le mot pleurer, est-ce que ça vous ouvre des perspectives, Pierre Bayard?
En tout cas, à propos du livre de François-Henri Désérable, oui, hein, le mien est, je pense, plus ludique. C'est un livre gay, mais c'est aussi un livre sur tous ces millions de personnes qui ont disparu. Et donc l'exploration conduit aux pleurs, oui.
Et quand on explore, on doit finir par quitter un lieu dans lequel on s'est trouvé bien et on le quitte à regret. Donc c'est toujours l'exploration et toujours aussi le chagrin d'un champ inachevé.
Miguel, bonne foi.
Quand on explore, je pense, eh bien, que on est aussi en train de découvrir un paysage qui ne sera plus à découvrir. Mmh. Et donc, on perd quelque part des parcelles de monde qui sont encore à conquérir.
Donc, vous êtes vraiment des explorateurs.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel.
On se quitte tous les trois en écoutant le choix musical de Miguel Buenfoy. Vous avez choisi Latino America, c'est un titre du groupe portoricain Calle 13.
Tout à fait, c'est le chanteur René qui est parti dans un grand voyage dans toute l'Amérique latine pour justement faire cette chanson. Et il dit qu'il a fait tous les pays, mais enfin, il n'a pas vraiment fait tous les pays. Cependant, dans la chanson, il met qu'il a fait tous les pays. On revient à cet effet de réel de Barthes, on revient à ce jeu de fiction-réalité, on revient exactement dans l'exploration du mensonge.
Merci à tous les trois. Je rappelle les titres de vos livres. Pierre Bayard, L'énigme Tolstoïevski, c'est chez Minuit. Miguel Buenfoy, Jungle, chez Paulsen. Et Sucre Noir, chez Rivage. Et François-Henri Désérable, Un certain monsieur Piekielny, c'est chez Gallimard. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci. Merci.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Olivier Dupré à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter en illimité sur franceculture.fr, 7h sur l'exploration avec Pierre Bayard, Miguel Buenfoy et François-Henri Désérable.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos.